Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
I'm Black and I'm Proud, ce sera un peu le leitmotiv de cette émission puisque nous sommes installés à la Cité de la Musique à Paris où se tient jusqu'au 24 août 2014 une exposition qui épouse parfaitement la thématique de l'épopée des musiques noires. Il s'agit de Great Black Music ou l'aventure artistique, historique et militante du peuple noir à travers les âges. Pour évoquer ces décennies de bouillonnement musical, nous avons fait appel à Emmanuel Parent, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, maître de conférences en musique à l'université de Rennes 2 en Bretagne, dans l'ouest de la France, et vous veillez à la bonne tenue historique et sociologique de cette exposition passionnante. Avant toute chose, parlons du titre. Qu'est-ce que la Great Black Music à vos yeux ?
La Great Black Music, le titre même fait référence à une époque, les années 60, qui est emblématique pour toute l'histoire des musiques noires, puisque c'est un terme, un concept qui a été forgé par un groupe d'avant-garde du jazz, l'Art Ensemble of Chicago, qui par là même voulait insister sur la grandeur de la tradition noire, par-delà les appellations commerciales que la musique afro-américaine avait connues, le blues, le jazz, etc. La Great Black Music, c'était la grande tradition noire.
Est-ce qu'il n'est pas un peu réducteur de relier la Great Black Music au militantisme des Noirs américains au cœur des années 60 ?
Ben je crois qu'on ne réduit pas la Great Black Music à ce militantisme, mais on y fait référence comme un moment important de prise de conscience où musique et politique, c'est vrai, se sont rejoints. Mais ce lien entre musique et politique ne définit pas toutes les musiques noires. Elles sont diverses et elles ont différentes intentions. Mais c'est un moment où on l'a formulé de cette manière, en tout cas.
L'une des salles thématiques est consacrée aux Amériques. Cela veut-il dire que le continent américain tient un rôle déterminant dans l'épopée des musiques noires ?
Ben, si vous voulez, il est toujours très compliqué de définir ce qui fait l'essence des musiques noires, mais le parti pris dans cette exposition, c'est de considérer que les musiques noires, d'une certaine manière, naissent en Amérique et rejoignent petit à petit les autres parties du monde, notamment au travers de ce qu'on appelle l'Atlantique noir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Afrique dans les musiques noires, bien évidemment, ce serait absurde d'essayer de le démontrer, mais qu'effectivement, ce premier geste naît peut-être dans les contre-coups de l'esclavage et de la colonisation, et puis au travers de circulation des artistes, des musiciens, des disques, eh bien, l'Afrique, l'Europe et les Amériques se mettent à jouer et à danser au son de la black music.
À quand remonte le concept d'identité noire porté par les musiciens de jazz, de blues et de soul music?
L'identité noire en tant que motif de fierté, je crois que ça remonte peut-être au début du XXe siècle, même si on pourrait trouver des antécédents au XIXe. Je pense notamment au mouvement de la Renaissance de Harlem dans les années 20, où des artistes, des poètes, des musiciens, Langston Hughes pour les poètes, Duke Ellington pour les musiciens, ont commencé eh bien, à avoir un renouveau de cette fierté noire, et notamment l'Afrique redevenait un motif de fierté après avoir longtemps été enfouie dans l'inconscient afro-américain.
Je vous propose, Emmanuel Parent, d'écouter une archive sonore qui remonte aux années 20. Il s'agit de la voix d'un orateur essentiel dans l'histoire de la communauté noire. Je parle de Marcus Garvey.
Fellow citizens of Africa, I greet you in the name of the Universal Negro Movement Association and African Communities League of the World. We love humanity, we desire peace, and anything the Universal Negro Movement Association and I can do for the advancement of the cause of humanity and for the permanent establishment of peace, we shall be glad to do.
Enregistré a priori en 1920 à New York, c'était Marcus Garvey, personnalité majeure et orateur précieux qui accueillait ses frères soldats africains de retour d'Europe après la Première Guerre mondiale. Et on note qu'il ne dit pas « mes frères américains », mais « mes frères africains »,« fellow Africans ». Quelle lecture faites-vous de cette distinction, Emmanuel Parent ?
Marcus Garvey a un rôle considérable à cette époque-là. Je parlais tout à l'heure de la renaissance de Harlem, c'est le pendant intellectuel avant-gardiste. Mais Marcus Garvey, lui, il a fait quelque chose de nouveau, il a touché les masses. Il a touché les masses noires américaines, c'était un orateur antillais de talent, mais il a fait surtout, il a eu un impact considérable aux États-Unis où il faisait appel au nationalisme noir et à la fierté africaine. Et effectivement, il va troquer le nom de l'identité noire américaine pour celle d'une identité africaine. Il va dire, nous avons toujours été africains et il nous faut retrouver notre identité. Et ce discours va faire mouche et l'Universal Negro Improvement Association, son UNIA, son mouvement, va recueillir des millions de suffrages en l'espace de très peu d'années. Il va faire même très peur aux différents gouvernements britanniques, américains de l'époque et il va finir malheureusement dans l'exil et dans la prison, mais son mouvement aura eu un impact considérable. Et effectivement, le fait de s'adresser aux militaires noirs américains qui reviennent de la Première Guerre mondiale comme fellow Africans, eh bien évidemment très lourd de sens à cette époque.
Cette volonté de se réapproprier la terre des ancêtres et ce besoin d'un retour sur le continent africain s'est manifesté dans le répertoire afro-américain à maintes reprises et notamment dans les Negro Spirituals et le Gospel, comme nous allons pouvoir nous en rendre compte avec cet enregistrement réalisé en mai 1964 à Atlanta, en Géorgie.
We're marching on to freedom land. We're marching on to freedom land. God's our strength from day to day. As we walk the narrow way, we're going forward, we're going forward. One day we're going to be free. Oh, we're marching on.
Come on.
To freedom land.
Come on.
We're marching on to freedom land.
God's our strength.
God's our strength. From day to day.
As we walk the narrow way.
As we walk the narrow way.
We're going forward.
We're going forward.
We're going forward. One day we're going to be free.
One day we're going to be free.
Oh, oh.
Come on.
We are marching on to freedom land. Nous marchons vers la terre de liberté. C'était Carlton Reese et le chœur de l'église baptiste d'Atlanta en mai 1964. Nous sommes à la Cité de la musique à Paris cette semaine pour évoquer la grande épopée des musiques noires à travers l'exposition Great Black Music en compagnie d'Emmanuel Parent, anthropologue et maître de conférences en musique à l'université Rennes 2. Est-ce que les croyances, les rites et codes africains ont résisté à la rencontre de l'homme blanc au fil des siècles? Quand on entend par exemple cet air religieux enregistré dans une église noire d'Atlanta, on perçoit davantage l'influence européenne catholique que l'ancestralité du peuple noir.
C'est une question qu'il est difficile de trancher. Qu'est-ce qui est resté de la spiritualité africaine dans les expressions musicales et religieuses afro-américaines? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la religion a été un des premiers lieux de recréation d'une culture. Le roi Jones disait que seuls les arts immatériels, la musique, la danse et la religion avaient survécu au passage du milieu. Et c'est vrai que sûrement dans les plantations, dans les nuits secrètes haïtiennes, eh bien, c'était dans le contexte de cérémonies religieuses qu'au travers de la musique, tout est reparti d'une certaine manière. Alors dans ce qu'on a entendu là, effectivement, l'hymnologie protestante a un grand rôle dans la recréation de la musique noire religieuse américaine. Il s'agit là d'un syncrétisme, de phénomène de créolisation et d'une certaine manière démêler ce qui viendrait de l'Europe et de l'Afrique finit par être un peu un jeu un peu vain et surtout qui prive les Afro-Américains de leur potentiel de création. Et je préfère plutôt faire appel à la notion de chair à glissant de créolisation pour caractériser l'acte de création de toutes ces musiques.
Est-ce que le blues et la soul music musiques, qui sont des musiques dites profanes, symbolisaient un refus d'endoctrinement religieux de la part de l'homme noir.
Effectivement, le blues a souvent été décrit comme la musique du diable, opposée au gospel qui serait la musique du bon Dieu. Mais quand on regarde de façon un petit peu plus attentive les choses, comment elles se passaient à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on se rend compte qu'en fait, il y avait beaucoup de circulation et que beaucoup de bluesmen sont devenus des prêcheurs, comme Skip James, par exemple. Effectivement, on a l'image de Robert Johnson qui a vendu son âme au diable, mais je crois que, d'une certaine manière, certains bluesmen étaient aussi proches de l'Église, même si dans leur paroles de chansons, ils pouvaient célébrer des valeurs contraires à la religion. Et puis, surtout, d'un point de vue musical, il y a une grande proximité. Et j'adore cet extrait de prêche du révérend Nix qui s'appelle Black Diamond Express to Hell, qui date de la fin des années 20. Et on entend, en fait, c'est un vrai bluesman, voire même un rappeur, en fait. On croirait entendre Joey Starr ou le Dirty Bastard qui apostrophe ses ouailles en disant « N'allez pas danser le samedi soir, car vous allez perdre votre âme. » Mais il le fait avec exactement les mêmes techniques musicales que ceux qui vont entendre le samedi soir sur les pistes de danse.
Vous parliez de Robert Johnson, il existe une légende concernant ce bluesman qui aurait donc vendu son âme au diable, vous le disiez, en contrepartie d'une virtuosité à jouer le blues. Est-ce que là encore, la volonté de s'affranchir de la culture des colons européens n'est pas manifeste ?
Oui, alors là c'est ambigu parce que à la fois il y a cette volonté de la transgression et même la figure du gangster qui est présent avant d'être présent dans le rap, qui est présente dans le blues et dans plein de musique afro-américaine. La transgression vers le démon, vers le diable ou vers la violence peut être considérée comme une volonté de s'affranchir du monde des blancs. Et en même temps, dans cette histoire de Robert Johnson, c'est un vieux mythe de la sorcellerie aussi européenne, c'est-à-dire que en l'échange du mal, je vais recevoir une forme de connaissance. Et ça, c'est un mythe ancestral qui est aussi commun aux Africains que dans la vieille Europe.
Quoi qu'il en soit, Robert Johnson est entré dans l'épopée des musiques noires grâce à cette légende tenace, mais aussi grâce à sa version définitive du classique Sweet Home Chicago. Chicago, Robert Johnson en 1936, un titre qui a été redécouvert et revitalisé par les plus grands, de Buddy Guy à Eric Clapton en passant par Freddie King ou Ben Harper. On le disait en début d'émission, longtemps l'Afrique a été une terre fantasmée par les musiciens noirs américains. Est-ce que ce regard simpliste, voire grossier de l'Amérique envers l'Afrique a beaucoup évolué ?
Oui, je le crois. C'est vrai que au début, les Noirs américains ne connaissaient pas grand-chose de l'Afrique. Ils étaient très éloignés et ils n'ont plus finalement que le fantasmé. Un peu comme leurs contemporains européens, à l'époque du primitivisme et des arts nègres, fantasmaient d'une certaine manière aussi l'Afrique ancestrale, primitive, première. Et il fallait se rendre sur place pour découvrir la modernité aussi qui avait traversé l'Afrique à la même période. Mais je crois que la circulation des musiciens et la connaissance a avancé. Et depuis les années 60, les festivals des arts nègres à Dakar, le match Mohamed Ali Fraser,
voilà, John Foreman,
de nombreux contacts qui ont fait que je pense aussi au bluesman Taj Mahal qui a beaucoup enregistré avec les musiciens maliens, Farka Touré, etc.
Et notamment Bassekou Kouyaté récemment.
Et Bassekou Kouyaté, effectivement, autant d'enregistrements, autant de rencontres, autant d'échanges qui fait que aujourd'hui, je pense que les Américains connaissent mieux l'Afrique qu'il y a 100 ans. Oui.
Il y a une histoire aussi que vous racontez dans le catalogue de l'exposition, c'est la rencontre de l'Afrique par Lester Bowie, le fameux trompettiste de l'Art Ensemble of Chicago, qui découvre Fela et l'Afrique en se rendant sur le continent africain.
Oui, tout à fait. Lester Bowie, je crois que c'est au cours d'une tournée en Europe en 1977, décide de marquer une pause dans sa carrière et il réunit le peu d'argent qui lui reste pour un aller simple à Lagos. Alors pourquoi Lagos ? Pourquoi le Nigeria ? Peut-être tout simplement parce que c'est un pays où on parle anglais. Il se dit qu'il se sentira moins perdu car il connaît finalement assez peu le continent africain. C'est la première fois qu'il s'y rend. Et il se trouve qu'il va à Lagos, là où bat le cœur d'un courant musical extrêmement fécond à cette époque-là, l'afrobeat, mais sans connaître Fela ni aucun autre musicien africain contemporain. Et il faudra un taximan qui le voit en découvrant qu'il est musicien, en lui disant il faut absolument que tu rencontres Fela. Et il arrive à la Calcutta République, dans le shrine, le fief de Fela. Et là, va avoir rencontre avec le maître qui, je crois, n'est à peine réveillé, évidemment, selon ses habitudes. Apparemment, il se réveillait très tard, vers 16h, pour rencontrer Fela. Et à son grand étonnement, Fela, lui, le connaît. Évidemment, Fela Kuti a fait ses classes, il connaît ses classiques et il sait l'importance de l'Art Ensemble de Chicago au sein de la constellation du free jazz. On imagine le choc qu'a dû ressentir Lester Bowie, de savoir qu'il avait influencé des musiciens qu'il ne connaissait pas et qui, en retour, le connaissaient parfaitement. Mais je crois que la première chose qu'ils se sont dit, c'est musicalement. Ils ont commencé à jouer trompette, saxophone, quelques mesures de blues pour échanger une complexité. Et Fela a tout de suite ordonné qu'on aille chercher les affaires de Lester Bowie pour qu'il s'installe à demeure. Et il est resté plusieurs mois à Lagos. Et on imagine la qualité des échanges musicaux, intellectuels, philosophiques que les deux grands musiciens ont pu avoir.
La plus belle preuve de ce rapprochement culturel majeur que provoquent les musiques noires depuis des siècles, c'est ce clin d'œil afro-européen à un classique afro-américain. Voici Fulani Kuchiman, en référence à Uchi Kuchiman de Muddy Waters, par Jhulde Camara de Gambie et Justin Adams de Grande-Bretagne. Jhulde Camara et Justin Adams, un Gambien et un Britannique, dans une révérence à un Américain, Muddy Waters, à travers ce titre, Fulani Kuchiman, qui referme ainsi la première partie de cette émission consacrée à l'exposition Great Black Music, qui se tient jusqu'au 24 août à la Cité de la Musique à Paris. On se retrouve dans 3 minutes après le rappel de l'actualité. Nous serons en compagnie de Philippe Bruguière, responsable du Musée de la Musique, et Marc Benahiche, commissaire de l'exposition, qui rejoindront ainsi Emmanuel Parent pour cette émission estivale de l'épopée des musiques noires. À tout de suite.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
L'épopée de music noir.
It's okay. You know, it's okay.
Oh, merci.
C'est un retour à la Cité de la Musique que nous vous proposons cette semaine à l'occasion de l'exposition Great Black Music qui se tient à Paris jusqu'au 24 août. Vont nous rejoindre dans un instant Marc Benahiche, commissaire de l'exposition, et Philippe Bruguière, conservateur au Musée de la Musique. Mais d'abord, plongeons-nous dans le cœur de l'épopée des musiques noires avec Baseko Kouyaté.
Fama de zina lijo, iye iye barara jo, fama de
de Djamako par l'un des dignes représentants de la culture malienne, le musicien Baseko Kouyaté, qui milite pour une meilleure reconnaissance du patrimoine de son pays natal, le Mali, que l'on peut considérer comme une terre musicale particulièrement fertile, comme nous le confirme Marc Benahiche.
C'est un pays dont la culture est très riche, puisque le Mali est l'héritier de l'Empire Mandingue, donc premier empire africain fondé au XIIIe siècle par Sundiata Keïta. Et donc, ce pays est empreint d'une grande histoire de l'épopée. On parle de la geste musicale malienne. Donc il y a une tradition des griots, une tradition royale, impériale, qui a amené à mettre la musique sur un piédestal. Être musicien au Mali, être griot au Mali, reste quand même un statut extrêmement haut dans la société.
Il n'y a pas évidemment que au Mali que la musique est riche et passionnante. À travers cette exposition Great Black Music, on réalise combien l'Afrique tout entière est source de créativité musicale et inspire les musiciens de tous horizons. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez déjà des musiques africaines en travaillant sur cette exposition, Marc Benahiche ou Philippe Bruguière?
En travaillant sur cette exposition, j'ai redécouvert l'apport des musiques afro-américaines en Afrique. Que ce soit voilà, le Art Ensemble of Chicago qui va rencontrer Fela Kuti, James Brown et sa tournée en Afrique. J'ai redécouvert des images d'archives que je n'avais pas vues et j'ai été estomaqué par la beauté de ces images, ces rencontres. Voilà, et puis on a beaucoup travaillé avec François Bensignor, qui a travaillé sur la partie Mama Africa de l'exposition. Et au contact de François, c'est toujours un plaisir de découvrir des inédits.
Philippe Bruguière.
Oui, eh bien moi j'ai tout simplement découvert des facettes extrêmement riches, incroyablement créatives de cette Afrique, de ces cultures panafricaines qui me subjuguent, qui m'interrogent aussi en même temps. Et je me souviens d'une exposition que nous avons faite ici en 1999 consacrée aux arts d'Afrique centrale. Et déjà j'avais été fasciné par l'extraordinaire richesse de ces traditions de harpe tout au long du fleuve Congo. Et quelque part hier, en voyant tous ces extraits, en regardant ces musiciens, quelque chose m'est revenu de cette exposition, même si on est à mille lieues de ces traditions ancestrales, on est dans un éblouissement, c'est extraordinaire.
Est-ce que les instruments de musique dont vous êtes le gardien ici, Philippe Bruguière, nous racontent une histoire, l'histoire du peuple noir ?
En tout cas, les instruments qui sont présentés dans cette exposition, oui, très certainement. Nous avons une première vitrine qui est consacrée aux instruments qu'a rapporté Victor Schœlcher, bien connu pour son décret sur l'abolitionnisme de l'esclavage. Et Schœlcher a rapporté de ses voyages dans les Caraïbes et dans le Nouveau-Mexique des instruments très émouvants. Nous avons fait une sélection de ces objets et quelques-uns sont présentés au regard du fil historique. Et ils sont absolument à leur place ici. Et puis pour nous, c'est une occasion aussi extraordinaire de pouvoir montrer au public des objets qui sont conservés dans nos collections et souvent en réserve depuis longtemps. Ces instruments Schœlcher ont été souvent prêtés pour des expositions à l'extérieur, mais c'est bien la première fois que nous les montrons ici.
Qu'est-ce que le ngoni dont Bassekou Kouyaté joue parfaitement, Bassekou Kouyaté, qui démarrait cette émission ?
C'est un instrument qui a un passé extraordinaire, une histoire extrêmement riche. Je dirais qu'il se projette dans le futur aussi sur une culture qui est apparue dans les Caraïbes et ensuite aux États-Unis, celle de ces musiques afro-américaines. Moi, je relis cet instrument à un instrument mythique que nous avons ici en bas, probablement une des plus anciennes pièces conservées en rapport avec le banjo, qu'on appelle le banza, qui vient d'Haïti, rapporté par Schœlcher. Un instrument extrêmement émouvant. Et d'ailleurs, j'invite les visiteurs à regarder ce banza avec l'instrument qui est présenté à côté, qui est un banjo américain, à mon sens, première moitié 19e siècle, en tout cas qui est rentré dans les collections avant 1873, et qui tous deux ont des liens de parenté très troublants.
Est-ce que le tabla indien a un équivalent africain ?
Non, je dirais que le tabla indien, lui, relève d'une technique de jeu qui est très spéciale, très digitale. On joue avec les doigts. On obtient ainsi des richesses de sons très variées. En Afrique, la pratique du tambour est plus différente. Les mains à plat, les bords de main, ce sont quand même deux mondes un peu différents.
Je vous pose cette question car nous avons réalisé en préparant cette émission que certains croisements musicaux paraissent totalement naturels, même lorsque les origines culturelles semblent éloignées. Écoutez cette rencontre magique entre le percussionniste indien Trilok Gurtu et la chanteuse malienne Oumou Sangaré. Brother, extrait de l'album African Fantasy de Trilok Gurtu, ici en compagnie de l'immense Oumou Sangaré. Marc Benahish, est-ce que le titre de cette exposition n'est pas un peu trompeur ? Great Black Music, qui est un terme américain qui délimite une période, les années 60 on va dire, n'aurait-il pas fallu conserver dans le titre la notion africaine de ces musiques qui représentent la source, l'origine de toute cette histoire ?
Justement, on s'est approprié ce terme de Great Black Music amené par le Art Ensemble au Chicago en 1960, pour véritablement, en accolant le mot « great » à « black music », on a voulu étendre son aire géographique, puisque pour beaucoup de monde, la black music, c'est la musique afro-américaine, nord-américaine. Lorsque l'Art Ensemble of Chicago parlait de Great Black Music, c'était en opposition à la Great Music. Et nous, en nous appropriant ce terme, c'est une façon de dire, voilà, c'est toutes les musiques noires, les musiques afro-américaines et la côte africaine, les musiques caribéennes, les musiques d'Amérique latine. Et dans ce travail d'exposition que j'ai démarré il y a 7 ans, c'est vrai que j'ai été très largement inspiré par ce concept d'Atlantique noir qu'avait énoncé Paul Gilroy en 1993. Donc c'est l'aire géographique centrale de cette exposition, c'est bien cet Atlantique.
Il n'y a pas une connotation politique, militante, engagée, citoyenne à travers Great Black Music ? Est-ce que cette exposition est militante, engagée et citoyenne ?
Cette exposition, en fait, son point de départ reste quand même un hommage à cette histoire, à ces musiques. Un hommage vivant, puisque ces musiques nous enchantent toujours aujourd'hui. Et s'il y a une dimension politique, c'est celle de l'hommage rendu. Après, j'ai voulu rester avec une approche multipolaire des choses et non pas essayer d'inscrire ça dans un discours qui serait que revendicatif.
Quoi qu'il en soit, l'Afrique est partout dans l'épopée des musiques noires, même dans les racines du rock. Je crois avoir vu un instrument assez étrange dont certains musiciens américains savent se servir toujours aujourd'hui. Je pense notamment à Big Daddy Wilson qui utilise un instrument qui s'appelle le didlebo. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet instrument, Philippe Bruguière ?
Oui, moi c'est un instrument qui me passionne. Tout ce qui glisse, moi ça me passionne en musique en général. Et en fait, le didlebo est peut-être l'instrument le plus simple qui soit à construire. Et c'est un instrument que les populations américaines noires dans le sud des États-Unis ont utilisé depuis toujours, en fait, depuis qu'ils ont été affranchis, dès qu'on a pu utiliser quelques instruments. Et avec quoi faisait-on un didlebo ? Eh bien, tout simplement, de même que la pioche ou la pelle étaient des outils fréquemment utilisés par les Noirs de ces communautés, le balai l'était aussi. Et en fait, il suffit de retirer le fil métallique qui entoure la paille en bas du manche et on a un fil de fer que l'on va accrocher sur un mur avec un clou en haut, un clou en bas. On va tendre ce fil de fer et près du clou du haut, on va y mettre peut-être une boîte de conserve un peu ouverte qui fera office de caisse de résonance et puis près du clou, tout en bas, on lui met une petite bouteille pour faire un scié. Et voilà, votre instrument est tendu. Et puis, il suffit de prendre une autre bouteille dans la main gauche et puis de la faire glisser sur le fil. Et on s'accompagne. Et des musiciens ont créé des musiques merveilleuses avec cet instrument. Music for one string. Une musique pour une corde. Moi, c'est mon thème depuis très longtemps. Vous savez, je travaille aussi sur l'Inde. C'est mon terrain, d'ailleurs. Et il se trouve que dans les traditions de l'Inde médiévale, il y avait un instrument extrêmement respecté et qui était l'instrument par essence celui de la déesse Sarasvati, la déesse de la musique, qui s'appelait Ekatantrivina, qui était un instrument avec une seule corde et sur lequel on glissait un petit bâtonnet. Donc voilà, il y a des choses qui sont là, qui sont concomitantes à travers le monde et c'est intéressant.
Vous êtes venu avec cet instrument, le didlebo, et je vous propose de nous faire entendre le son de cet instrument.
Mais oui, avec plaisir.
Est-ce qu'on peut dire que finalement ce son-là, c'est un peu l'ancêtre de la guitare électrique ?
C'est l'ancêtre de la guitare. En tout cas, beaucoup de musiciens comme Charlie Patton et d'autres ont commencé avec ça. Ils se disent, oui, le didlebo, c'était ma première guitare, alors que il n'y a pas de touche, voilà. Mais c'est une corde qui vibre à l'unisson avec la voix, et ça, c'est quelque chose qu'ils répètent tous. Ensuite, on est passé du didlebo à des instruments comme le Sikabox guitare, que vous avez pu voir aussi, instruments faits à partir d'éléments de récupération. Et puis ensuite, des guitares bon marché, puisque ces gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment l'origine, l'essence de cette musique.
Le cigar box, ou la guitare cigar box, qui fait penser à la guitare, on va dire, rectangulaire d'Albert King. Je ne sais pas si vous avez fait le parallèle, mais
absolument.
J'y ai pensé tout de suite.
Oui, oui, absolument. C'est d'ailleurs le cigar box guitar, et un instrument qui revient très à la mode en ce moment. mais qui était répandu, et nous montrons d'ailleurs dans l'exposition ici trois types différents, un petit violon avec une caisse en forme de boîte de cigare, et puis deux instruments, un plus ancien des années 30 avec des calcomanies encore de Captain Midnight, qui était un grand un héros d'une série radiophonique à Chicago, et puis un instrument plus récent fait dans les années 2000 à Montréal par quelqu'un qui est devenu maintenant un grand maître facteur luthier de ces instruments.
Et tout ça nous amène donc au rock des années 50, qui est donc la version évoluée de Rhythm and Blues, avec tout de suite la première version d'un classique d'Elvis Presley par une chanteuse noire, Big Mama Thornton. Voici Hound Dog.
You ain't nothing but a hound dog.
La version afro-américaine, bien avant qu'Elvis ne s'en empare, c'était Big Mama Thornton en 1952. Nous sommes à la Cité de la Musique cette semaine dans l'épopée des musiques noires, et ce à l'occasion d'une exposition qui épouse parfaitement la thématique de notre émission, Great Black Music, imaginée, conçue par Marc Benaïch et Philippe Bruguière, nos invités du jour, avec qui nous évoquons la place de l'Afrique dans les musiques mondiales. D'ailleurs, quel est à vos yeux l'artiste africain le plus représentatif du poids des cultures noires sur la planète, celui dont l'aura continue de susciter l'engouement et l'admiration universelle?
Waouh, c'est une dure question. Dans les légendes des musiques noires, qui est le premier chapitre de l'exposition entièrement immersive musicale, on s'est battu pour savoir quel musicien africain on allait faire rentrer dans ce temple, puisque c'est 21 colonnes. Et nous avons commencé par un artiste emblématique africain, qui est Fela Kuti. Et s'il y a bien un artiste emblématique, je resterai sur Fela. Et il est dans cette constance des mesures, une incroyable musique et en même temps une conscience politique qu'on va retrouver dans le fil historique de ses musiques.
Comment définiriez-vous l'afrobeat dont il était l'incarnation ?
Je crois qu'il y a d'abord un point de départ qui est le high life, qui couvrait le Ghana, le Nigeria, qui était déjà un métissage et la rencontre des musiques afro-américaines et des musiques africaines. Et puis il est lorsque James Brown, dans sa tournée africaine, arrive dans le Shrine, rencontre Fela, il y retrouve dans une version totalement différente son funk et puis quelque chose de qui n'a rien à voir avec tout ça, qui est l'afrobeat dans la musique de Fela.
L'un de ses disciples et admirateurs s'appelle Anthony Joseph, vous le connaissez ?
Personnellement, non.
Mais vous connaissez sa musique ?
Oui, tout à fait.
Artiste de Trinidad, qui ressemble à Marvin Gaye un petit peu, et dont la musique emprunte à l'afrobeat de Fela, comme nous allons pouvoir nous en rendre compte immédiatement.
Come on, dream on, come on, dream on, come on. a shark and a bull and half a lion and plenty Congo pepper. Between a tire and the Song of Solomon. And I'm sitting on Cobble Mountain now.
Dream on Corbeau Mountain, Anthony Joseph en 2009. Voilà un artiste qui pourrait entrer dans le Global Mix que vous présentez ici, messieurs. Rappelons ce qu'est le Global Mix d'ailleurs.
Le Global Mix, c'est le dernier chapitre de l'exposition, le sixième chapitre où on dit que les musiques noires sont planétaires. Et c'est là où, en effet, on va retrouver l'aventure du hip-hop, le reggae et le dancefloor africain d'aujourd'hui. Avec quelques images subversives de Kuduro.
Est-ce qu'il y a des instruments typiques des Caraïbes, Philippe Bourguet ? On vient d'entendre un artiste de Trinidad. Est-ce qu'il faut connaître certains instruments utilisés dans les Caraïbes ?
Eh bien, oui, aujourd'hui, il y a toute une série de tambours très typiques. Mais je dirais en fait que ces tambours, entre guillemets, viennent d'Afrique. Ils ont été, leur mémoire, ce patrimoine immatériel a été amené par les esclaves noirs. Et sur place, ils ont construit évidemment des instruments qui étaient ceux qu'ils utilisaient, qu'ils connaissaient dans leur propre culture en Afrique. Et effectivement, on trouve nombre de tambours, dont les tambourkas par exemple, bien connus, qui ont une fonction cérémoniale extrêmement importante, qui transmettent quelque chose, mais aussi qui sont des intermédiaires, des médiums, qui lient l'homme et les ancêtres et le divin et le sacré. Donc il y a toujours cet aspect de l'instrument comme médium entre l'homme et l'au-delà. Ça, c'est omniprésent, bien sûr.
Quand on parcourt l'exposition, ce que j'ai fait avant l'émission, on réalise que les musiques noires ont énormément voyagé, on les retrouve partout. Cela veut-il dire qu'elles sont la source de tous les genres musicaux connus aujourd'hui ?
Encore une fois, dans cette exposition, on a à peu près 10 heures de choses à découvrir. Ce sont autant de fragments. Et ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est une vision multipolaire des choses. C'est-à-dire, plutôt que justement d'être dans une construction arborescente de la connaissance, des sources, des racines et puis des ramifications, je préfère rester dans une image, alors sans être pédant, parce que je vais citer Deleuze, parce que c'est celui qui l'a un petit peu qualifié, c'est-à-dire il oppose l'arbre à l'herbe. Il dit voilà, l'herbe c'est sans début, sans fin, ce ne sont que des milieux. Ces milieux sont l'expression du désir. Et c'est lorsque j'ai construit ce parcours, c'est une succession de milieux. Je ne cherche pas à définir où serait la source, parce que si on cherche la source, alors on va vouloir en savoir la fin. C'est pas l'idée.
Les musiques noires sont en tout cas intimement liées à l'histoire du continent africain. Et quelle meilleure preuve que cette complainte majestueuse signée Nina Simone, artiste classique frustrée et prêtresse du blues et du jazz.
Come here.
Comme yeah, Nina Simone en 1966, c'est avec la plus africaine des chanteuses américaines que nous allons nous quitter. Merci Marc Benahiche et Philippe Bruguière de nous avoir accueillis ici. Et félicitations pour cette exposition Great Black Music.
Merci beaucoup.
Je rappelle que l'exposition Great Black Music donc, se tient à la Cité de la Musique à Paris jusqu'au 24 août. Merci à Nathalie Laporte et Manu Pochez pour la réalisation africaine de cette épopée parisienne. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.